Bonjour, bienvenue dans Grand Bien Vous Fasse. Et ce matin, on se demande comment surmonter une rupture amoureuse. Amour rime rarement avec toujours, même si en la matière, nous nous berçons d'illusions difficiles à perdre. Et vous, comment faites-vous pour affronter un chagrin d'amour? Comment vivez-vous le deuil amoureux? Vous remettez-vous illico sur le marché de l'amour grâce aux inépuisables sites et applis de rencontres? Avez-vous déjà été confronté à ce que la jeune génération appelle le ghosting, quand votre partenaire vous quitte en faisant le mort façon 2.0? Et puis, si vous êtes l'un de ces couples fusionnels qui traversent les décennies, soudés comme des moules à leurs frites, comment avez-vous évité la rupture amoureuse? Question, témoignage au 01 45 24 7000 et par courriel grand bien vous fasse à radiofrance.com, sans oublier notre page Facebook. Bonjour Christophe André.
Bonjour Ali.
Notre psy préféré que l'on retrouve tous les mardis dans les choses vues vers 9h30. De quoi vous nous parlez aujourd'hui?
De la prévention. Du chagrin d'amour.
À tout à l'heure. Bonjour Marie-Laure Sunshine.
Bonjour Ali.
Chef du service actualité à Femme Actuelle. En fin d'émission, il sera question de la rentrée des classes des enfants en situation de handicap.
Oui, absolument. On a voulu savoir si le candidat Emmanuel Macron, devenu président, a tenu son engagement de scolariser tous les enfants en situation de handicap. On le verra. La réponse n'est pas si simple.
À tout à l'heure.
France Inter. Grand bien vous fasse. Ali Rébéi.
Comment surmonter une rupture amoureuse? Avec nous ce matin, pour nous aider à y voir plus clair, un premier auditeur, Philippe, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue, vous avez 65 ans, vous êtes pasteur, et vous vous considérez comme très ouvert sentimentalement. Dans votre jeunesse, vous étiez plutôt du genre à vite tomber amoureux des filles, puis des garçons. Comment avez-vous vécu votre première rupture amoureuse?
Ah, ma première rupture amoureuse, c'était deux jeunes filles. J'avais 11-12 ans, je peux même citer leur prénom, Sylvie, puis Elisabeth. Et alors c'est là que les choses ont commencé à se gâter. Mon père a vu que je jouais dans la rue au badminton avec Elisabeth, et puis qu'on était très proches, et puis qu'on se faisait des petits câlins, des petits bisous. Et là il m'a pris à part, il m'a dit plus jamais ça, plus jamais ça. Tu m'entends, plus jamais ça. Alors moi, c'était pas compliqué. Je me suis dit, bon, les filles, ça m'est interdit. Je vais vers les garçons. Alors il faut croire qu'il y a un taux de bisexualité important chez moi déjà à l'origine. Et c'est vrai que pendant des années, des aventures avec des garçons, avec des sentiments amoureux très forts.
Alors qu'il s'agisse de rupture avec des hommes ou avec des femmes, la douleur de la rupture est évidemment la même.
Ah oui, c'est la même, et c'est terrible parce que la vie qui était en couleur au moment de la fréquentation ou au moment du sentiment, elle passe en noir et blanc, brutalement. Alors il y a un deuil, il y a une dépression qui s'installe, on n'a plus envie de vivre, on se dit à quoi de vivre, et puis voilà, la vie n'a plus aucun sens.
Comment vous avez surmonté cette série de ruptures amoureuses? C'est ce qui vous a poussé à devenir pasteur? Ah, on vous a perdu. Première réaction avec nos deux invités. Bonjour Sophie Cadalen, bonjour. Psychanalyste. Catherine Audibert, vous êtes psychanalyste et psychologue. Première impression sur ce témoignage de Philippe. Sophie Cadalen.
Je trouve amusant déjà d'arguer de la bisexualité pour je ne sais quoi d'ailleurs, parce qu'en fait ce qu'on peut en entendre, c'est que ça nous prévient de rien et ça fait moins mal d'un côté comme de l'autre. Et ensuite la question, alors pasteur, pour j'aurais été curieuse d'entendre la réponse. Il y a forcément envie effectivement d'aller brasser dans l'âme humaine, d'aller voir qu'est-ce qui s'y passe et peut-être d'y être au plus près. C'est peut-être aussi ce qu'on fait nous un peu les psys. Si on n'a pas forcément des chagrins d'amour tous les deux jours, on s'y colle de très près, parce que c'est quand même quelque part une aventure malgré tout passionnante.
Catherine Audibert, on a souvent l'impression qu'on ne se remettra jamais d'une rupture amoureuse.
Oui, forcément, parce que le monde s'écroule, hein, quand on perd l'amour. Nous sommes des êtres qui sommes faits pour être aimés et pour aimer, donc c'est une vraie catastrophe quand on perd l'amour. Mais voilà, c'est une épreuve à traverser dans la vie, une parfois plusieurs. Et qui sont certainement nécessaires pour que justement on puisse continuer à vivre. En tous les cas, ce que le témoignage dit, c'est que ça a été certainement formateur.
Philippe, justement, on vous a retrouvé. Les ruptures successives vous ont poussé à devenir pasteur?
Alors, je vais aller très très vite dans ce que je vais affirmer maintenant. D'abord, ça a été des aventures amoureuses avec déception avec des filles, puis ensuite ça a été avec des garçons. Et alors, je savais que dans la Bible, c'était indiqué que Dieu est amour. Moi, je cherchais le grand amour. Hein. Alors, je me suis dit, j'ai un corps, une âme et un esprit, et au niveau spirituel, je vais me mettre à rechercher Dieu. On ne sait jamais qu'il existe. Hein. Alors, c'est ce qui m'a poussé à faire cette recherche. Et puis, il se trouve que ça a été fructueux. Et en un soir, j'ai eu une illumination et j'ai rencontré Dieu, vraiment. Et ça m'a bouleversé. Et ensuite, alors je suis revenu vers les femmes, hein, et puis je me suis marié.
Et vous êtes marié avec la secrétaire du centre pour toxicomanes que vous dirigez à Genève. Elle vous a d'abord repoussé, puis vous avez persévéré.
Oui, tout à fait, j'ai persévéré, et puis là ça a bien marché, et puis on a 6 enfants, j'ai 9 petits-enfants.
Mais 36 ans de mariage.
Comment ?
36 ans de mariage.
Oui, 36 ans de mariage, mais alors mon enfance, j'en souffre encore, a été marquée par tellement de déceptions, j'ai failli me flinguer, je me suis mis à boire à l'époque, et puis mes résultats scolaires étaient anéantis, et c'était le ciel qui m'était tombé sur la tête, alors heureusement qu'ensuite j'ai pu trouver du bonheur.
Alors hein. Philippe, je crois savoir que votre femme vous a quitté il y a 3 ans, après 36 ans de mariage. Comment avez-vous surmonté cette rupture et quelle différence avec les précédentes ruptures, les ruptures de la jeunesse?
Alors là, ça a été terrible parce qu'elle était bipolaire et puis elle n'a pas voulu se soigner. Bon, enfin bref. Alors donc, elle est partie. Alors, ça a été terrible. Je suis allé voir mon médecin dès le lendemain parce que j'avais fait autrefois des dépressions et là j'avais une dépression qui commençait. Donc il m'a mis sous traitement médical, hein, à haute dose. Et puis pendant 2 ans et demi, je suis allé auprès d'une psychologue pour tout lui expliquer. Et là elle m'a remis sur les rails parce que j'étais complètement détruit par ce divorce, puisqu'elle a demandé le divorce. Et ça m'a détruit complètement intérieurement. Je veux dire,
est-ce que vous vous êtes reconstruit, Philippe, depuis ?
Pardon ?
Est-ce que vous vous êtes reconstruit depuis ?
Ah, complètement, complètement. Et maintenant, c'est la joie, c'est le bonheur. Et puis, advienne que pourra, je vis au présent. Et je crois que le meilleur va m'arriver. Mais ça, c'est tout un travail qui a duré 3 ans. Hein. Le deuil d'une déception amoureuse, d'une séparation ou d'un divorce, ça dure très longtemps. Hein.
On verra ça tout au long de l'émission. Catherine Audibert, je rappelle que vous avez publié « Surmonter un chagrin d'amour et en sortir grandi » sur le témoignage de Philippe.
Oui, on voit bien que ça peut être dévastateur, hein, d'être quitté, de perdre l'amour. D'autant plus qu'il y a toujours un enfant en soi qui sommeille et il y a les ruptures antérieures qui viennent aussi se surcharger la douleur du présent. Et puis toutes les douleurs de l'enfance, de ne pas avoir été aimé à certains moments de notre vie. Mais en tous les cas, on peut être aidé avec des médicaments, possiblement, voilà, selon la douleur qu'on peut ressentir. Maintenant, comme dit cet auditeur, il y a un travail aussi qui se fait, enfin qui n'est pas à faire, c'est pas une question de volonté, mais un travail qui se fait parce qu'il y a une transformation qui est nécessaire et c'est cette transformation qui fait qu'au bout d'un moment, on reprendra le risque d'aimer à nouveau.
Christophe André.
Ouais, ces histoires de chagrin d'amour sont intéressantes aussi parce qu'il y a un grand écart entre la souffrance immense que ressentent les personnes qui ont été quittées et puis le regard qu'on porte de l'extérieur. On parle de chagrin d'amour, bon, une petite peine, hein, de perdu, 10 de retrouvé, alors que quand on est dedans, on a l'impression que le monde s'écroule.
Sophie Cadalen.
Oui, et puis j'aurais envie de dire, n'oublions pas non plus ceux qui éventuellement quittent aussi, ou ceux qui n'aiment plus. On parle pour l'instant du chagrin d'amour en disant, voilà, j'ai été quitté, mais ça peut être aussi extrêmement douloureux de se dire, voilà, je ne peux plus rester dans cette histoire parce que je n'y suis plus, d'une certaine manière.
Merci Philippe d'avoir témoigné dans Grand Bien Vous Fasse. Comme Philippe, dites-nous comment vous avez surmonté une rupture amoureuse. Faites-nous partager vos expériences, 01 45 24 7000, Grand Bien Vous Fasse @radiofrance.com. www.radioscoop.com. On vous attend également sur notre page Facebook. Alors, même si ce bon vieux Freud disait que nous ne sommes jamais aussi mal protégés contre la douleur que lorsque nous aimons, nous verrons ce matin que les chagrins d'amour finissent bien, en général, en compagnie de nos invités. Une émission préparée par Alexia Rivière, Claire Destacan, avec notre journaliste Théo Denmat, avec l'aide d'Antoine Vandeville, et c'est réalisé par Éric Lenné, 01 45 24 7000.
De roses blanches se sont fanées samedi, comme la fin de notre histoire déjà finie. C'est dur d'y croire, pourtant j'oublierai ton prénom. Ta personne est devenue du vide, le vide est ton nouveau prénom. Le vide est ton nouveau prénom. C'est vrai, ta tête me dit quelque chose. Oublier que tu existais. Après tout, je ne voulais peut-être pas te garder dans ma tête, ni dans mon cœur. À la place, j'ai mis du vide. À la place, j'ai mis du vide. Un autre vide. En échange d'une personne vide comme la tienne, tu sais, le vide reste pas longtemps. Car un jour, quelqu'un prendra la place de ton vide et j'en serai indifférente. Et j'en serai indifférente. Une étoile t'est tombée des mains, tu la regardes partir loin. Les étoiles se filent pour de bon. Maintenant, elle doit veiller sur quelqu'un d'autre que toi.
Le très beau titre de la femme, Le vide est ton nouveau prénom.
France Inter.
T'es trop petite et t'es trop moche. T'es ordinaire en plus.
Grand bien vous fasse.
Jamais un homme ne m'a dit de choses aussi belles.
Ali Rebbi.
10h21, comment surmonter une rupture amoureuse? C'est notre thème ce matin.
Dans des moments pareils, poursuivre sa vie semble impossible. Et engloutir tout le contenu de son frigo semble inévitable. J'ai deux solutions. Renoncer et accepter ma condition de vieille fille à perpétuité pour finir dévorée par des bergers allemands? Ou non? Et cette fois, je décide que non. Je ne me laisserai pas abattre par un sale mec et une grande dringue d'américaine. À la place, je choisis la vodka. Et tchakaka.
Pour surmonter une rupture, faites-vous comme Bridget Jones, le personnage d'Hélène Fielding. Vodka, tchakakan et peut-être Nutella. Sophie Cazalène, je rappelle que vous êtes psychanalyste. Le choc de la rupture est-il contenu dans le choc de la rencontre? On parle de choc amoureux, de coup de foudre, on tombe amoureux. Avec ce vocabulaire, on sent bien dès le début que la rupture risque de faire mal et qu'on va peut-être avoir du mal à la surmonter.
C'est ce qui fait que, plus souvent que l'on imagine, on est réticent à aimer. On croit tous que l'on veut tomber amoureux, qu'on veut être en couple, qu'on veut vivre des histoires. Et en fait, et ça on l'entend sur le divan, chez tous les psys, non, c'est pas si simple. Parce qu'effectivement, c'est une exposition. C'est vivre de très belles choses, mais aussi des choses extrêmement inconfortables et prendre le risque de la perte. Ou ce qu'on peut appeler l'échec. Je ne suis pas très d'accord avec ce terme d'ailleurs d'échec. Mais en tout cas, c'est le sentiment qu'on en a quand justement l'histoire se termine.
Bonjour Isaline.
Oui, bonjour.
Bienvenue dans l'émission. Vous appelez d'où ?
Alors moi, je vous appelle du Haut-Jura, voilà, de la montagne. C'est à 1000 et quelques mètres d'altitude.
Ah, j'aimerais être à votre place là.
Ah oui, c'est très intéressant comme temps. Oui.
Vous êtes infirmière.
En ce moment, il fait moyen beau. Voilà.
Bon, vous êtes infirmière.
Alors, je suis infirmière à la retraite depuis 15 jours seulement.
Bon.
Effectivement, j'ai eu une vie sentimentale assez riche. Je me suis mariée, divorcée. Enfin bon, la vie a toujours été belle et je l'ai toujours menée, moi, cette vie. Hein. Même sur le plan du couple, j'étais une femme forte. Hein. Et puis, un jour, patatrac, j'ai rencontré un homme qui, ma foi, correspondait à un idéal enfoui au fond de moi-même. Le bûcheron qui sentait bon le pain, le sapin. Voilà, et je suis tombée complètement amoureuse, mais pour de vrai cette fois-ci. Et en fait, j'ai vraiment très très accroché, peut-être trop. Hein. Il m'avait dit « tu m'aimes mal hein, ». En fait, j'étais surnommée, donc j'ai rencontré d'une manière assez curieuse, et puis finalement il m'a installée dans sa maison de bois, toute de bois, enfin magnifique, au fond de la forêt. J'ai vécu un idylle absolument incroyable. Je continuais à travailler, je redescendais sur terre, donc en allant travailler aux urgences à Genève, puisque j'ai travaillé en Suisse toute ma vie et j'y habitais aussi. Et en fait je suis passée de nuit. Et j'étais très heureuse, hein. Je faisais le jardin, la soupe de légumes, il m'emmenait à ses concours de bûcherons, enfin bon, j'attendais à la sortie du bois quand il rentrait du travail, je humais ses pantalons de sécurité que je mettais dans la machine, je regardais, mais alors d'un air idyllique et tout. Et un matin, je suis rentrée de ma nuit de travail, j'ai écouté mes messages, et là je me suis aperçue que, en fait, toutes ces nuits, il les passait ailleurs, dans le lit d'une autre fille, hein, voilà. Et apparemment, c'était la coutume de ce garçon, et personne ne me le disait dans la région, parce que je ne connaissais personne dans la région. En fait, c'est un homme qui était très, très, très volage, et voilà, faible affectivement, parce qu'il passait d'une femme à l'autre.
Et du coup, c'est vous qui l'avez quitté ?
Patatrac, pardon ?
C'est vous qui l'avez quitté, du coup ?
Alors oui, parce que je me suis aperçue, ma fierté n'a fait qu'un bond. J'étais absolument blessée dans mon amour propre, mais quelque chose d'incroyable. J'ai eu l'énergie de le quitter du jour au lendemain. Il m'avait fait vendre ma maison, donc je me suis retrouvée vite en appartement, premier appartement de location, 3 mois de caution, voilà. J'ai pris 3 fourgons de déménagement, les copains. En une journée, j'ai même pas laissé une passe à cheveux chez lui. Voilà, donc fierotte, les copines, ouf, soulagée. Je me regarde en face. Bon, ça passait 2-3 jours comme ça, et là, la descente totale. Donc, je me suis retrouvée complètement anéantie. Je me suis vite allée réfugier chez mes parents. Infirmière, donc forcément accès facile à la médication, donc je prenais des somnifères le matin pour dormir toute la journée. Mon papa m'apportait du café complètement anéanti aussi, comprenait pas. Ma maman disait mais ça lui passera. Le soir je me réveillais, j'allais aux toilettes, je me lavais, je reprenais encore je me lavais plus ou moins, n'est-ce pas. J'ai supposé que c'était un état dépressif parce que bon, des psychiatres, j'en rencontrais à toutes les portes. Ça m'est pas venu à l'idée d'en consulter un parce que je sais qu'il faut qu'on s'en sorte toute seule dans ces cas-là.
Isaline, est-ce que vous avez réussi
Isaline, 3 mois Isaline, où j'ai fait de l'absentéisme professionnel, c'était la première fois de ma vie.
Isaline, est-ce que vous avez réussi Isaline, est-ce que vous avez réussi à surmonter aujourd'hui cette rupture ?
Alors la vie est très belle, donc j'ai 64 ans, donc ça fait 14 ans. J'ai surmonté cette rupture toute seule, avec peut-être les copines, en faisant un peu plus la fête que d'habitude, bon, en effondrant le soir bien sûr. Mais c'est pour expliquer qu'en fait c'est pas vrai, on a envie de mourir. Hein. Moi je me promenais, je suis rousse, donc je me promenais dans les bois en période de chasse avec une veste d'un pour qu'on me tire dessus à gros calibre pour en finir. Et finalement, je sais pas, mon instinct, mon passé aussi, la force de mon caractère, ma personnalité a fait que j'ai surmonté tout ça, et je ne comprends pas. J'ai suivi sa vie à distance tout le temps, hein, je sais tout ce qu'il fait tout le temps. Mais je ne, maintenant, je me dis, mais comment j'ai fait pour tomber amoureuse d'un homme qui n'a jamais évolué, qui
Isabelle, est toujours, Catherine Audibert a envie de vous répondre.
Oui, enfin, déjà, quand on est dans une grande, grande souffrance comme ça, mieux vaut ne pas trop s'isoler. On peut quand même demander de l'aide, hein, c'est pas interdit. Alors bien sûr, il faut trouver une écoute bienveillante qui ne juge pas, qui ne cherche pas à donner des conseils parce qu'il faut faire son chemin tout seul. Mais enfin, faire son chemin tout seul, ça ne veut pas dire s'isoler, se couper des autres.
Sophie Cadalen.
C'est la même chose.
Oui, ce témoignage, en plus du précédent, en tout cas me fait penser que le terme « surmonter la rupture » n'est peut-être pas juste. C'est plutôt une traversée, en fait, cette rupture. Et je crois qu'effectivement, toute rupture réclame, et est-ce qu'on a le choix d'ailleurs, bah, d'y être complètement, sans doute mal, enfin mal, pas de la bonne manière, et puis en étant soi-même très mal, mais il y a quelque chose à vivre amplement, pour peut-être ensuite le transformer, le dépasser.
Christophe André.
Oui, 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 cette notion de traversée de quelque chose de finalement inévitable, et dont on a intérêt à aller jusqu'au bout, sinon le boulot ne sera pas fait, est très intéressante.
Merci beaucoup Isaline de nous avoir appelé et n'hésitez pas à faire comme Isaline 01 45 24 7000. Alors que se passe-t-il quand on reçoit en pleine tête, en plein cœur une rupture Catherine Audibert, quand on n'a rien vu venir, quand la rupture est brutale, il s'agit d'un véritable traumatisme.
Ben oui, justement, il faut prendre en considération cette dimension-là parce que le choc quand même a des conséquences, hein. C'est pas seulement après tout le travail qui se fait autour du manque de l'autre, du renoncement à l'autre. Il y a aussi le choc initial qui peut être très grand et qui peut mettre quand même dans un état psychique très délicat. Et c'est ça qu'il faut déjà pouvoir colmater au départ.
Christophe André, sur ce choc traumatique de la rupture.
C'est incontestablement un choc traumatique et d'ailleurs certains de nos patients à des années de distance ont encore des sanglots lorsqu'ils évoquent ces histoires-là. Donc d'où l'importance effectivement de ne pas uniquement colmater ça avec des médicaments ou en se jetant à corps perdu dans d'autres bras ou d'autres activités, mais de se dire c'est un moment de ta vie qu'il faut que tu acceptes de traverser pour aussi douloureux soit-il.
Alors même s'il n'y a pas de règles en la matière, y a-t-il toujours des signes annonciateurs à une rupture Sophie Cadalen. Même quand on dit « Ah, mais ça m'est tombé dessus, j'ai rien vu venir, oui. Est-ce que... »
Ce sera peut-être ça, justement, le chemin ensuite. Une fois estompé, quelque part, les vibrations du séisme, on pourra peut-être commencer à se poser la question. D'ailleurs, c'est ce que disait cette femme. Qu'est-ce que j'ai fait avec cet homme-là? Comment j'ai pu être aussi amoureuse de cet homme qui n'a pas évolué, qui ne m'intéresse plus, d'une certaine manière? Et c'est une façon, quelque part, de se réapproprier l'histoire, d'y redevenir acteur, actrice. Qu'est-ce que j'ai été chercher dans cette histoire? Pourquoi ça m'est tombé dessus? Qu'est-ce que j'ai projeté aussi? Quelque part, on est tellement, et peut-être aussi c'est ce que racontait cette auditrice, on s'est tellement raconté le film de cet amour que peut-être on n'est plus, on n'est pas réellement à l'écoute de l'autre et de ce qu'il nous envoie et des signes que peut-être, voilà, il a émis et qu'on a totalement occulté, quelquefois.
Comment on surmonte ce gros traumatisme dans un premier temps? Qu'est-ce qu'on fait, Catherine Audibert?
Il faut pouvoir en parler. Je pense que la parole, de toute façon, est absolument nécessaire. Mais comme je disais tout à l'heure, il faut pouvoir trouver une écoute bienveillante qui ne juge pas, qui ne donne pas de conseils, au moins dans un premier temps. Parce qu'il faut pouvoir s'approprier cette histoire, faire des liens avec toute sa propre histoire, son passé, ses anciens chagrins d'amour, hein, qui commencent très tôt dans l'enfance, dès le début. Hein. Il faut pouvoir trouver un sens à tout ça aussi, on a besoin de comprendre. Et quand on a retricoté tout ça, qu'on a mis les choses quand même dans un autre ordre et qu'on en a compris quelque chose, on voit que le renoncement se fait et puis les blessures se cicatrisent progressivement. Mais il faut du temps aussi pour ça. Hein.
Avez-vous entendu parler du phénomène du ghosting? Alors c'est pas très neuf en fait. Après une rencontre amoureuse, c'est ne plus jamais donner de nouvelles, d'explications, disparaître, faire le mort, notamment sur les réseaux sociaux, ne plus jamais donner de nouvelles par SMS. C'est plus difficile à surmonter une rupture amoureuse quand on n'a pas du tout d'explication, Sophie Cadalen.
Oui, d'une certaine manière. Alors effectivement, ce phénomène, je pense qu'il oui, il a toujours existé. Il y a toujours des gens dans notre vie qui ont disparu d'un coup d'un seul. Ils répondent plus au téléphone. Alors avant, c'était les fixes qui sonnaient désespérément dans le vide. Maintenant, c'est plus violent parce que justement, il y a tellement moyen d'être en contact les uns avec les autres que quand tous ces contacts-là, effectivement, ne circulent plus, oui, c'est très douloureux. Mais effectivement, le manque de total d'explication, le manque, même si il faut aussi renoncer à l'explication. Parce que vouloir se faire expliquer pourquoi l'autre, par exemple, ne nous aime plus, c'est tout à fait vain. On n'explique pas la plupart du temps le désamour. Ou alors sur des modes très suspects la plupart du temps. Mais le silence total, l'autre qui ne dit rien, même pas le « je ne t'aime pas » ou « je ne t'aime plus », oui, c'est extrêmement difficile.
Comment je surmonte Catherine Audibert ?
Là, c'est un peu compliqué, parce qu'évidemment, quand on est face à un mur de silence, il va falloir trouver les réponses en soi, tout seul. Enfin, tout seul, ou se faire aider, évidemment, parce qu'à ce moment-là, je pense qu'il faut demander de l'aide. Il y a des fois, on ne peut pas s'en sortir tout seul, et c'est vrai que c'est nécessaire quand même d'avoir quelqu'un en face qui puisse renvoyer autre chose quand il y a une absence de mots.
Ça avive ce qu'on appelle la blessure narcissique, Sophie Cadalène ?
Pas toutes les ruptures, pas tous les chagrins d'amour, mais beaucoup, beaucoup.
Et c'est quoi la blessure narcissique d'ailleurs ?
Quelque chose de soi, de l'image de soi, quelque chose de sa valeur qui là en prend un coup. C'est-à-dire que si l'on ne nous aime plus, on n'est plus rien, on est au sens premier du terme anéanti.
Ted. Faut que je rappelle l'agence avant qu'il ferme. Salut, ici Ted Kramer. Dis donc les photos qui sont à la retouche, il me les faudrait pour demain matin, d'accord ?
Je m'en vais.
Attends chérie, j'entends rien. Quoi ? D'accord, toi aussi, merci beaucoup. Salut, à demain. Vous avez bouffé, vous autres ?
J'entends, je m'en vais. Ted, les clés. Tu vois, mes clés.
Quoi ?
Ma carte American Express, celle de Bloomingdale. Et voilà mon chéquier.
Oh ! Elle est là. Mais, Johanna, ça suffit maintenant, hein ? Où tu vas ? Mais enfin, dis-moi ce que j'ai fait. Dis-moi ce que j'ai fait de si terrible.
Toi, c'est moi, c'est ma faute. Je ne suis pas la femme qu'il te faut, voilà tout.
Johanna, je t'en prie, tu vas...
Puis aussi, je t'aime plus.
Alors là, dans Kramer contre Kramer, en 1979, Meryl Streep dit très clairement qu'elle n'aime plus Dustin Hoffman. C'est difficile à entendre, mais bon, faut pas se voiler la face parfois, Sophie Cadalène.
Oui, c'est très difficile à entendre et c'est
je ne t'aime plus.
Voilà, ce à quoi on cherche la plupart du temps une explication qui est impossible. On n'explique déjà pas l'amour, voilà. Alors on peut trouver plein de choses, mais l'explication fondamentale, elle nous échappe toujours. Et le je t'aime plus, la plupart du temps, nous échappe aussi.
Bonjour Catherine.
Oui, bonjour.
Bienvenue, vous appelez d'où Catherine ?
De Charente.
Bienvenue dans l'émission. Alors racontez-nous votre histoire Catherine.
Alors moi j'ai vécu pendant 13 ans avec donc le père de mes enfants, de mes deux enfants. Et bon, c'est vrai que le couple fonctionnait pas trop mal, mais bon, il y avait comme dans tous les couples des débats. Et on a voulu acheter une maison pour donner un nouvel élan. Et il s'est trouvé que j'ai rencontré une femme qui est devenue ma meilleure amie. Mmh. Et un jour, je me suis rendu compte en fait que mon compagnon sortait avec ma meilleure amie. Et donc, à partir de là, il y a eu la rupture, qui a été très, très douloureuse, parce que c'était vraiment ma meilleure amie. Et c'était comme mon âme sœur. Donc, c'était double peine, et d'autant plus qu'elle travaille avec moi. Alors, ça a été très compliqué. Et j'avais vraiment l'impression de plus exister, de plus, comme vous avez dit, de plus avoir d'identité, en fait. Et beaucoup de colère, mais vraiment énormément de colère et de souffrance. Mais surtout de la colère et qui s'est retournée aussi contre mes enfants. Et pour sortir de là, j'ai vu qu'une seule chose, c'est d'aller lui pardonner. Et je suis allée la voir, on a discuté, on a pleuré et j'ai pu à ce moment-là me reconstruire avec l'aide de la kinésiologie, du Reiki, toutes ces méthodes en fait qui apportent un soulagement.
Beau témoignage de Catherine Audibert.
Oui, là, il y a effectivement, comme elle dit, double peine, double trahison. Alors, le pardon, en tant que tel, moi, j'y crois pas trop, parce que là aussi, c'est un travail psychique hein, pour arriver à pardonner. Mais peut-être que l'amitié était plus forte dans cette histoire et a permis quand même que effectivement, ça se fasse.
Catherine, l'amitié était plus forte dans
votre
cas ? Oui,
c'était vraiment une très, très forte amitié. Et donc... C'est même aujourd'hui, hein, je la vois plus maintenant, elle a changé de département, mais je garde quand même toujours une petite amitié pour elle parce que j'ai jamais pu enlever en fait.
Sophie Cadalen.
Oui, il me semble, moi aussi je suis un petit peu réticente au terme de pardon. Je ne sais pas si c'est vraiment de ça dont il est question, en tout cas ça dont on a besoin dans un premier temps, et surtout dans une histoire comme celle-là. Mais ce qui peut-être a été éclairci en se voyant, en se s'affrontant, c'est le fait que c'était peut-être pas contre elle, cette trahison-là. Alors peut-être, voilà, il y avait peut-être une histoire d'amour qui se nouait ailleurs, en tout cas de désir, quelque chose qui passait par-dessus elle, mais qui n'était pas contre elle.
Catherine, ce sont des pratiques corporelles qui vous ont notamment permis de surmonter cette rupture.
Oui, ça m'a beaucoup aidé parce que ce sont des gens extérieurs qui ne connaissent pas le couple, qui ne connaissent pas l'histoire de la famille. Et moi, j'ai déjà fait appel à ces méthodes-là pour d'autres choses, notamment des dépressions, une dépression que j'ai eue un jour. Pour ma part, je sais que ça fonctionne bien.
Merci beaucoup Catherine d'avoir témoigné dans Grand Bien Vous Fasse. Comme Catherine, vous pouvez nous contacter au 01 45 24 7000. Allez, il est temps de retrouver les choses vues de notre psy préféré, Christophe André.
Choses vues.
Je suis votre thérapeute.
Christophe André.
Christophe André, que vous inspire notre sujet du jour ?
Eh bien, notre sujet me fait penser à des petites scènes touchantes que j'ai vues en cette fin d'été sur les quais de gare, des petits amoureux qui s'embrassaient, qui se parlaient avant que l'un des deux, habitant visiblement dans un autre coin de France, ne reprenne le train. Je me demandais, en les voyant, ce que deviendraient ces amours de vacances et combien de chagrins ils engendreraient. D'ailleurs, on ne devrait pas parler de chagrin d'amour. C'est un vocable pour ceux qui n'en souffrent pas. Pour les personnes qui le subissent, ça n'a rien d'un petit chagrin. C'est plutôt une grande détresse, une tristesse intense, comme un état dépressif transitoire mais profond. D'ailleurs, il est à la mesure du bonheur vécu. L'amour va tout intensifier dans notre vie et la rupture, à l'inverse, va tout désertifier. Plus rien n'a de sens ni d'importance, comme dans le célèbre vers de Lamartine « Un seul être vous manque et tout est dépeuplé ». Et la douleur de la rupture est telle que parfois, on fait n'importe quoi, on veut en finir avec la vie, ou au lieu de se remettre à vivre, on se fige dans l'espoir d'un retour de l'être aimé.
Ça me rajeunit, Christophe André.
Absolument, je sais que vous aimez ça, lui. Alors, il y a un autre aspect passionnant de la rupture amoureuse, c'est le point de vue et l'attitude de celle ou celui qui la provoque et qui cause le chagrin. Parfois, c'est une attitude de sagouin, égoïste, brutale, mais assez souvent, la personne qui part voudrait ne pas faire de peine, souhaiterait ne pas trop faire souffrir et se demande s'il est possible de plaquer quelqu'un gentiment. Et ça n'est pas seulement parce que les larmes ou les reproches de l'ex sont pénibles, c'est aussi parce qu'on l'a aimé, vraiment aimé, mais que l'amour ne suffit pas, comme le savent les thérapeutes. L'amour est une condition nécessaire, mais pas suffisante, et il faut bien d'autres choses en plus pour qu'un couple dure et s'épanouisse. Alors, comme la personne qui part se souvient de cet amour, elle rêverait de ne pas faire trop de mal, mais c'est mission impossible. Même en s'efforçant d'être un abandonneur ou une abandonneuse, gentil ou gentille, dans une rupture, on ne peut que faire souffrir. L'honnêteté et la bienveillance n'empêcheront pas la souffrance, mais sans doute permettront-elles un rétablissement plus rapide et surtout éviteront-elles le traumatisme de ces amoureux et amoureuses mal quittés qui du coup ne veulent plus jamais aimer personne et deviennent comme des grands brûlés de l'amour. Message donc à toutes celles et tous ceux qui partent. de votre mieux, quitter l'autre avec honnêteté et humanité. Ça n'empêche pas le chagrin, mais ça préservera chez l'ex la possibilité d'aimer encore. Bon, enfin, tout ça, c'est plus de mon âge, mais vous, cher Ali, à la vie sentimentale riche et pleine d'ardeur, est-ce que vous avez bien pris soin de ne pas trop faire souffrir vos ex?
Oui.
Bravo, mais je vous félicite.
Sophie Cadalen.
Est-ce que j'ai pris soin de ne pas faire souffrir?
Allez, c'était les choses vues de Christophe André tous les mardis dans Grand Bien Vous Fasse. Comment surmonter une rupture amoureuse? Faites-nous partager vos expériences. 01 45 24 7000. Grand Bien Vous Fasse à radiofrance.com. Dans quelques instants, nous vous dirons comment affronter le manque et comment sait-on que l'on a surmonté une rupture amoureuse.
Goodbyes are getting old. Next time you can go ahead and go. I'm tired of begging you to love me. Goodness gracious, you're amazing. According to you, I'm a lucky lady. Wait. So why'd you lie to me? Huh? Why you cry to sleep? Goodness gracious, I'm replaceable. Yep. You say that I'm too crazy. Yep. I guess you were right. Yep. I guess you were right. My straight jacket's custom made. My straight jacket's custom made. And I'm crazy just like Galileo. Holyfield, I can't hear you. I'm tired of begging you to love me. You're expecting me to say, loco, please, please stay. I'm tired of begging you to love me.
Arguments, of course you
goodness
say.
Goodness gracious, you're amazing. According to you, I'm a lucky lady. So why do I cry to sleep?
Why?
Why did you lie? Goodness gracious, I'm replaceable. You say that I'm too crazy. I guess you were right. I guess you were right. Just break up. I tried everything to say, but so why do I cry to sleep every time you try to leave? Goodness gracious, this relationship is full of so much hatred. I guess you were right. I guess you were right.
Jesse Reyes, Shutter Island.
Aimer, c'est souffrir. Et lorsqu'on veut éviter de souffrir, il ne faut pas aimer.
Grand Bien Vous Fasse.
Est-ce que vous pouvez vous barrer maintenant?
Sur France Inter.
10h46, comment surmonter une rupture amoureuse, c'est notre thème ce matin. 01 45 24 7000 pour témoigner et réagir. Et beaucoup, beaucoup d'auditeurs très marqués par des chagrins d'amour. Hayden nous écrit par courriel. Ça fait 4 ans que je ne suis plus avec mon ex-copine. La séparation a été dure. Je pense toujours à elle. J'ai fait une dépression. Je me suis détruite. Elle a refait sa vie plusieurs fois. Comment faire pour ne plus penser à elle et faire un deuil? Catherine Audibert. Quelles sont d'ailleurs les similitudes et les différences entre le deuil d'un être cher et le deuil d'une relation amoureuse?
Il y a beaucoup de similitudes. Bon, c'est un travail psychique hein, qui aboutit normalement à nouveau au désir d'aimer, en tous les cas, la prise de risque d'aimer à nouveau. C'est pas exactement tout à fait la même chose que de perdre quelqu'un, évidemment, mais c'est quand même une perte Donc comme toute perte, ça nécessite un travail qui ressemble à celui du deuil. En tous les cas, on passe par des étapes qui sont parfois quand même les mêmes que dans un deuil d'une personne.
Sophie Cadalène.
Oui, il me semble que dans les deux cas, en tout cas, que ce soit le deuil, le chagrin d'amour, c'est l'expérience de notre humanité que l'on fait, au sens le plus aigu et sans doute le plus impitoyable. D'abord notre précarité, le fait qu'il n'y a pas grand-chose qui dure toujours, comme le dit l'expression, et puis l'expérience de notre profonde solitude, qu'on passe notre temps à oublier, à occulter, à laquelle on tente de faire diversion, mais dans ces moments-là, on est seul. Et peut-être que faire ce travail, comme on dit, c'est peut-être justement affronter et assumer cette profonde solitude. Personne ne peut réellement nous consoler. On peut parler, on peut partager, on peut être écouté, ça fait du bien, mais on ne peut pas être consolé. Et il faudra peut-être se plonger réellement dans ce chagrin, dans cette solitude, dans cette incommunicabilité, pour justement s'assumer comme être désirant de nouveau et aimer de nouveau de manière aussi singulière.
Christophe André.
Oui, c'est très important. C'est vrai que les philosophes parleraient sans doute de détresse ontologique, c'est-à-dire qui est structurelle au fonctionnement de l'être humain. Et c'est vrai que l'amour comble ce vide, ce sentiment de solitude que nous portons chaque fois que nous sommes face à nos souffrances. On souffre tout seul, hein. On peut se sentir accompagné, mais la souffrance, c'est nous qui la vivons. Et l'amour comble ça, nous donne l'illusion qu'il n'y a plus de solitude, plus de détresse. Et donc, quand il se retire, non seulement on en revient à l'état antécédent, mais on a le goût de ce qui a été une sorte de paradis et qui nous a été retiré, double souffrance.
Catherine Audibert, ce qui peut empêcher de surmonter un chagrin d'amour, c'est de refuser de faire ce travail de deuil.
Oui, on peut essayer de l'anesthésier en tous les cas, ce qui ne fait que reculer le travail qui sera nécessaire à un moment ou à un autre. Effectivement, comme disait Christophe André, ça nous confronte à notre capacité d'être seul, donc il faut pouvoir aussi accueillir cette solitude, même si elle n'est que momentanée. Mais on est confronté à ça, on ne peut pas en faire l'économie, on ne peut pas faire l'économie de la souffrance. Et peut-être qu'il faut aussi parler de la dimension de la culpabilité dans cette affaire, parce que même quand on ne quitte pas et qu'on est quitté, eh ben on se demande qu'est-ce qu'on a fait pour avoir été quitté, qu'est-ce qu'on a fait pour ne plus être aimé. Et ça, c'est une question assez fondamentale là-dedans.
Sophie Cadalène.
Et puis cette difficulté qu'on peut avoir, comme le disait ce dernier témoignage, à sortir de cet état de chagrin, c'est peut-être aussi parce que quelquefois, il y a inconsciemment une espèce de confort. Alors je mets des guillemets autour de ce terme. Les gens qui vont m'entendre vont hurler, confortable, d'accord. Oui, mais de confort quand même. Parce que quelque part, on identifie la souffrance et on croit savoir ce qu'il nous faudrait pour qu'il n'y ait plus cette souffrance. Si elle, s'il lui revenait, si cet amour de nouveau se vivait, tout irait bien. Or, effectivement, traverser cette souffrance-là, c'est de nouveau s'exposer à de nouveau aimer, c'est de nouveau se lancer, c'est de nouveau se hasarder. Et quelquefois, on préfère le confort de la connaissance de notre malheur au hasard de ce qui va s'en vivre derrière.
Ah, le chagrin d'amour, c'est un manque terrible. C'est une des conditions, justement, qui permettent de définir l'appariement monogame. C'est que quand un des partenaires s'en va ou il est absent, soit volontairement, soit par les circonstances, l'autre éprouve un sentiment profond de manque, exactement comme un drogué qui n'a pas sa drogue. Tout ça, c'est les voies du plaisir et du désir qui sont sollicitées dans un sens ou dans l'autre. Exactement la même chose que chez un opiomane qui prend de l'opium, il va avoir ses voies du plaisir qui sont extrêmement stimulées, et puis dans le même temps, il y a des processus qui tirent en sens inverse, ce qu'on appelle les processus opposants, qui fait que quand ça s'arrête, et bien après ça devient extrêmement désagréable, c'est le syndrome de manque, mais c'est les mêmes structures qui sont impliquées. L'homme est un être double, le plaisir ne va pas sans la souffrance et la souffrance sans le plaisir.
Comment fait-on pour gérer le manque dont parlait le biologiste Jean-Didier Vincent en 2012 sur Inter, Catherine Audibert?
Il faut beaucoup de douceur autour de soi déjà, je pense. Il faut retrouver, enfin quand je dis il faut, disons que ne pas se priver des occasions qui peuvent nous apporter du plaisir, même s'il faut parfois se pousser un petit peu, je pense que justement contrebalancer avec des sources de plaisir, la beauté, dans la musique, dans la peinture ou je ne sais quoi. Enfin, ça dépend après de la personnalité qu'on a et ce qu'on aime dans la vie. En tout cas, pas se priver de ces sources-là dans des moments pareils.
Sophie Cadalen.
Oui, oui, cette notion de plaisir à regagner, à reconquérir est très importante. Mais d'un plaisir qui ne vient que de soi. C'est-à-dire que c'est plus l'autre qui va, dans un premier temps, nous le fournir. C'est vraiment un chemin que l'on fait de nouveau en se demandant mais qu'est-ce qui me fait du bien ? De quoi j'ai envie là maintenant ? Qu'est-ce qui me ferait un peu plaisir ? Et finalement, c'est se retrouver soi. Un rendez-vous avec soi peut-être incontournable et qui là, d'une certaine manière, est indispensable.
Bonjour Gilles, bienvenue dans Combien vous fasse.
Oui, bonjour.
D'où appelez-vous Gilles ?
De la région de Clermont-Ferrand.
Alors vous avez subi pas mal de ruptures amoureuses, c'est ça ?
Oui, puisque bon, j'ai été séparé de la mère de ma fille depuis 2002. Et après, j'ai essayé de refaire ma vie. Et bon, mais plus ça va, plus les ruptures amoureuses, si vous voulez, elles sont, elles montent en intensité. Et on a l'impression qu'elles vous détruisent, mais après, on fait le bilan sur soi et on se dit qu'elles nous reconstruisent. On se reconstruit et on se redécouvre une autre personnalité, un autre attachement, et on se dit qu'on veut pas recommencer, mais après on remet le nez dedans et puis on recommence, voilà.
Alors récemment, je crois savoir qu'après une grosse rupture, plutôt que de vous énerver, d'être dans la haine, vous avez plutôt choisi la voie de l'empathie.
Voilà, exactement.
Bah
oui,
facile,
j'ai connu
hein.
une personne formidable avec qui on s'entendait bien. Qui, vous voyez, il y a des paroles qui disent j'aurais aimé avoir un enfant de toi, j'aurais aimé avoir ci, avoir ça. Donc ça vous consolide dans cet attachement. Et bah, je suis resté mince, après la rupture qui s'est passée en Bretagne, je suis redescendu chez elle parce que j'avais laissé ma voiture en Corrèze, il fallait que je rentre sur Clermont. Et ben je suis resté 4 jours chez elle et bon, plutôt que de détruire son appartement, de me venger, de mettre des coups de peinture, j'ai essayé de découvrir la personne qu'elle était au travers des écrits et de ce qu'elle créait aussi en peinture. Puisque moi aussi je fais de la peinture et puis j'ai fait des poèmes, elle m'a fait créer des poèmes que j'avais jamais créés auparavant, quoi. Et dans cette empathie, bah, je suis allé voir son père qui était atteint d'une grande maladie. Et voilà, je me suis présenté auprès de lui et je lui ai fait savoir qu'il fallait pas avoir peur de la mort parce que j'avais vécu une expérience assez intense à ce sujet. Et je pense que il a compris mon message puisque... Voilà, après, j'ai su que 2 mois après, il partait, quoi.
Merci beaucoup, Gilles, pour ce joli témoignage. Catherine Audibert, Sophie Cadalen, pour terminer, quand sait-on qu'on a surmonté une rupture amoureuse ? Catherine
Audibert. Quand on souffre plus, quand ça provoque plus de douleur. Quand on peut repenser à l'histoire passée sans que ça nous rende malade.
Et peut-être quand on est réconcilié avec cette histoire, que... Au-delà de la rupture, eh ben, on est content de l'avoir vécu, cette histoire.
Et puis surtout quand on ne craint plus d'aimer d'autres personnes, Catherine Audibert.
Oui, c'est ça, ce que je disais tout à l'heure, prendre le risque d'aimer à nouveau, quand on n'a plus de crainte en ce qui concerne l'amour.
Question et réponse rapide, question par courriel, est-ce qu'on surmonte une rupture de la même manière quand l'histoire dure 3 mois, 3 ans ou 30 ans, Sophie Cadalen ?
Bah, je crois surtout que chacun surmonte les ruptures de manière très singulière. Il n'y a pas de méthode et il n'y a pas de standard.
Et est-ce que les pratiques corporelles, renouer avec son corps par exemple, ça permet de surmonter
On peut se faire du bien en tous les cas. Bon, quand on a été traumatisé en plus par le choc de la rupture, on peut aller se faire masser, on peut retrouver un contact avec son corps, on peut faire des pratiques, voilà, le yoga, des choses comme ça, ça fait beaucoup de bien. Mais ce que je voulais dire et ce que l'auditeur disait là à l'instant, c'est la voie de la sublimation, parce que quand même, c'est une des façons les plus efficaces aussi de surmonter un chagrin d'amour.
Sublimation
en faire
à travers
quelque
l'art,
chose,
notamment.
Voilà, en faire quelque chose, peindre, écrire.
Tenir un journal. Merci beaucoup Catherine Audibert, surmonter un chagrin d'amour et en sortir grandi et publié chez Le Duc édition. Merci beaucoup Sophie Cadalen. Vivre ses désirs est publié en poche chez Point. Tout de suite, Marie-Laure Sunshine de Femme Actuelle. « Marie-Laure Sunshine, vous êtes donc chef des actualités de Femmes Actuelles. Et il ne vous aura pas échappé que la rentrée des classes était hier. Zoom ce matin sur la rentrée des élèves en situation de handicap. Pendant la campagne présidentielle, Emmanuel Macron est venu dans votre journal. Il a fait une promesse lors d'une rencontre avec les lectrices.
Absolument, l'une d'entre elles, donc un panel de lectrices que nous avions réunis pour Femmes Actuelles. On avait rencontré plusieurs candidats, dont Emmanuel Macron. Et l'une d'entre elles lui avait posé la question « Que comptez-vous faire pour la scolarisation des enfants en situation de handicap ?» Alors le candidat avait pris l'engagement, je cite, de trouver une solution pour chaque enfant. On a rappelé l'Élysée la semaine dernière, reposant la même question, et on nous a affirmé effectivement, oui, chaque enfant ferait sa rentrée accompagné d'un assistant. Alors qu'en est-il ? C'est pas aussi simple. D'abord, faut savoir que pour cette rentrée, on compte 164 000 élèves en situation de handicap. À leur côté, on a face à eux 80 000 accompagnants. Alors dans le détail, il y a 50 000 contrats aidés. Précision, ils ne seront pas concernés par les suppressions annoncées. Et 30 000 AESH, c'est-à-dire les accompagnants d'enfants en situation de handicap. Et il y a 8000 nouveaux postes qui ont été créés pour cette rentrée. Alors, vous êtes bon en maths, Ali, donc vous allez me dire 80 000 versus 164 000, ça fait pas un pour un. On est d'accord. En fait, là où c'est Sophie Cluzel qui a apporté une précision, c'est la secrétaire d'État au handicap, les enfants dont les parents ont fait une demande avant la rentrée bénéficieront d'un accompagnant sous réserve de la notification MDPH, Maison départementale des personnes handicapées. En clair, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les dossiers qui sont encore en cours d'instruction, des dossiers qui demandent un traitement extrêmement long, ces maisons départementales, il y en a une centaine en France, sont tenues par des équipes pluridisciplinaires qui mettent des mois et des mois à étudier le dossier de chaque enfant, à évaluer au cas par cas le nombre d'heures d'accompagnement souhaitées à la rentrée. Bref, tout ça prend du temps et beaucoup d'entre eux, soyons clairs, à ce jour, n'ont pas encore d'accompagnants à leur côté. D'ailleurs, Sophie Cluzel elle-même disait qu'il y a à peu près 10 000 dossiers en attente, en instruction.
Et vous savez quoi, Marie-Laure Sunshine, on consacrera une émission à ce sujet dans Grand Bien Vous Fasse.
Voilà, je voudrais juste préciser pour les parents qui sont concernés, il y a un numéro vert qui est à leur disposition, le 0810 55 55 00, 0810 55 55 00.
Merci Marie-Laure Sunshine. Le point sur les nouveautés de la rentrée scolaire, c'est-à-dire cette semaine, dans Femmes Actuelles. Demain, on dressera un portrait robot des enfants des années 2010. Et vous, quel regard portez-vous sur les enfants de notre époque ? Un regard bienveillant ou plutôt critique ? Grand Bien Vous Fasse à radiofrance.com, sans oublier notre page Facebook. Merci à Christophe André d'être avec nous tous les mardis. À la technique ce matin, Antoine Gomez et Maxime Ingrand. À suivre Nagui et sa bande originale.